Seigneur, on remet ce temps de partage de ta parole, on veut méditer ta parole, on veut écouter ta voix qui nous parle. Parle à nos cœurs, Seigneur, par ta parole. Grave-la dans notre esprit, dans notre cœur, qu'on puisse la méditer, la garder, afin qu'on mette en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes, tout ce que tu nous as écrit dans ta parole. On remet nos ventres tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La semaine passée, j'ai parlé que mes brebis entendent ma voix. À partir du moment où ce qu'on a entendu que Jésus t'a avancé à la croix pour pardonner nos péchés, on a entendu qu'on était pécheurs, on a fait des péchés, puis on entend ça quand on se fait témoigner, quelqu'un nous parle de Jésus, on commence à lire la Bible, puis on catch des idées, puis on s'aperçoit des vérités de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous parle. On ne pourra pas comprendre aucun enseignement de la Bible si ce n'est pas que le Saint-Esprit nous le dit. Puis là, il nous convainc pour nous amener à lui. Fait que là, un bon moment de l'audin, on entend la parole qui dit « Y en a-tu qui veulent accepter Jésus? » Puis là, on comprend assez pour dire « Oui, moi, je veux l'accepter. » Mais quand on lève notre main, puis qu'on dit oui, puis qu'on fait la prière, on est en train de répondre à l'appel de Dieu. Dieu a fait un appel dans nos vies, on a entendu sa voix, puis on a répondu à son appel. Mais la vie chrétienne commence là. Après ça, tout le long de notre vie, il faut être à l'écoute de sa voix, parce qu'il dit, « Mes brebis entendent ma voix. » C'est pas juste quand on l'a accepté. C'est tout le long de notre vie, Dieu nous parle. Sa voix nous parle. Là, j'ai parlé de quelques endroits où ce qu'on pouvait aller puiser pour écouter sa voix. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est toute sa parole, sa voix, sa parole. C'est tout ce qu'il a voulu nous dire, c'est déjà écrit. Tout ce qu'il a voulu qu'on sache 2000 ans plus tard, ça nous est resté dans un livre. La parole de Dieu, c'est là que Dieu parle. Puis les autres endroits que Dieu parle, j'ai dit la semaine passée, quand on va à l'église, qu'on écoute des messages, quand on vient dans la cellule, on entend des messages, des exhortations, des enseignements, des prêches. Dieu parle par ses serviteurs, ses servantes qui amènent des messages pour expliquer la parole. Puis si on écoute comme faut quand on entend des messages, souvent Dieu nous parle. À travers de cela, on se sent touché, on comprend, oui, c'est vrai, on réagit, puis des fois même on se bloque les oreilles pour pas l'entendre, parce que c'est des choses qu'on veut pas entendre, puis on essaie de regarder, ça c'est pour lui, ça c'est pour l'autre. C'est comme si on projette ce qu'on aurait dû comprendre pour nous-mêmes, que Dieu nous parlait, mais on essaie de projeter ça aux autres. Mais il faut être à l'écoute. Dieu parle. Puis il y a un autre endroit que Dieu parle, j'ai dit, le Saint-Esprit. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as demandé le Saint-Esprit, il est rentré en toi. Puis lui, Saint-Esprit, il te parle. C'est lui qui te fait comprendre la Bible quand tu lis. Puis des fois, il veut te diriger dans des choses à faire, mais il veut te diriger dans des choses à ne pas faire. Puis il faut apprendre à discerner sa voix, à l'écouter, parce qu'il utilise la Bible, il utilise un frère ou une sœur, il utilise un message, il utilise toutes sortes d'affaires pour nous parler, mais il faut être à l'écoute de sa voix. Aujourd'hui, c'est une suite de cette idée-là, de ce verset-là, qui est Jean 10 au verset 27. Ça nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Là, Jésus dit, « Je les connais. » Et elles me suivent. La base de notre relation avec Jésus, là, de Jésus avec ses disciples, c'est une communion. Autant qu'on dit on connaît Jésus, on l'entend sa voix. On la reconnaît. Puis on dit on connaît Jésus, puis on le suit. Notre relation là, qui se développe, c'est que lui-ci peut dire « je les connais ». Il connaît ses brebis, puis il les appelle par leur nom, puis on le suit. Il y a une relation qui se développe, mais une relation qui nous amène dans l'obéissance. Parce que avant qu'on connaisse le Seigneur, notre vie c'était désobéir à Dieu sur toute la ligne. Tout ce qu'on faisait dans notre vie, ça déplaisait à Dieu. À partir du moment qu'on a réalisé que toute notre vie, c'était une vie de péché, puis que ça nous entraîna dans les temps de feu, on a compris que Jésus nous appelle pour être sauvés, on a dit oui, je veux être sauvé. Là, on y a donné notre vie. Là, il dit qu'il nous a pardonné, puis il nous a soigné, il nous a donné son Saint-Esprit. Là, il y a un contact qui se développe entre moi et Dieu, parce que j'ai dit oui, là, il me connaît. Puis là, il me dit, j'entends sa voix, puis là, je peux le suivre. Le but d'avoir répondu, c'est pas juste de l'entendre, c'est d'arriver à le suivre. Parce que Jésus veut marcher pour aller plus loin, puis nous amener plus loin. Il veut pas qu'on reste comme qu'on était avant de venir à lui. Il veut nous changer. Il veut faire nous laver, nous purifier, nous délivrer, nous transformer, puis il veut nous amener à être comme lui. Il veut nous amener à marcher dans la même façon que lui marche. Mais des fois, le Seigneur, il s'étonne du peu de réponses face à son appel, face à sa parole. Il est étonné, il dit, ça se peut pas. Je les ai appelés, ils m'ont entendu. Je leur ai dit, viens, je les ai pris dans mes bras, je les ai pardonnés, je les ai lavés, je leur ai donné le Saint-Esprit. Puis là, ils veulent plus me suivre. Il dit dans Luc 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur est étonné de voir que ses brebis, souvent, traînent de la patte, puis ils ont le goût de retourner en arrière dans leur ancienne vie. Pourtant, Jésus, tout ce qu'il a à nous offrir, c'est le mieux, le meilleur qu'il a pour nous, c'est ce qu'il veut nous offrir. Il dit, suis-moi. Puis il dit, mes brebis, elles me suivent. Mais des fois, il y a des brebis qui se rebellent. Puis qui disent non au Seigneur. Je veux plus te suivre, Seigneur. Ça fait plus mon bonheur, Seigneur. J'aime pas ça, ce chemin-là, Seigneur. Puis je suis tanné de ce chemin-là, Seigneur. Puis je suis tanné de mon frère qui est dans ce chemin-là. Je suis tanné de ci, je suis tanné de ça, puis là, je veux lâcher, Seigneur. Puis là, le Seigneur, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas? Puis là, il y a des gens qui ont vécu de longues périodes dans leur vie, sont à l'église, Seigneur, Seigneur, s'en vont chez eux. Ils veulent même pas y parler au Seigneur, puis ils veulent pas le contact. Ils veulent pas écouter. Pourtant, le Seigneur, il y a encore plein de choses à nous dire, même rendu chez nous. Dans Jérémie 7, 23, il y avait un verset qui était semblable à ce verset-là. Ça dit, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Pourtant, le Seigneur l'avait dit, « Suivez ma voix, écoutez ma voix, puis vous allez être heureux, marchez dans ce que je vous demande. » Puis des fois, on résiste, puis ça ne nous tente plus. Puis on laisse le Seigneur marcher tout seul, puis on est quasiment en train de revirer. Tous les chrétiens sur la terre peuvent... Ça, il n'y a pas juste les gens du monde, là. Les gens du monde et les chrétiens, on est tous face à deux portes. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole dans Matthieu 7 qui parle de deux portes? Il y a une porte qui est bien étroite, il y a une porte qui est bien large. Là, nous autres, on a accepté Jésus. Gloire à Dieu! On a trouvé la porte, on rouvre la porte étroite, on rentre dans la porte étroite. On rentre de côté tellement qu'elle est étroite. Elle est bien mince, la porte, on peut pas traîner rien avec nous autres. Faut débarquer tout le fardeau de nos péchés, là. Tout ce qu'on charge, faut débarquer ça en rentrant, puis là, on rentre dans la porte. Mais il n'y a pas juste la porte qu'il faut trouver, frères et sœurs. Jésus est la porte, ça on le sait. Le verset dit dans Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. »
Là, tu peux amener tout ton bagage et tes péchés.
Oui, il y a de la place en masse pour m'enchaîner des péchés. Il dit, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Il y en a plus qui rentrent par là qu'il y en a qui rentrent dans la porte étroite. Mais il dit, étroite est la porte, puis resserrer le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Le problème, ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas juste trouver la porte. On a accepté Jésus, on a trouvé la porte. Après ça, il faut trouver le chemin
qui mène à la vie.
Oui, c'est un chemin resserré.
Jésus est le chemin.
Jésus est le chemin. Suivre la voie de Jésus, écouter sa voix, puis le suivre, c'est le chemin. Il nous appelle. Il ne nous a pas appelé 20 ans, 30 ans, puis nous, après ça, il nous dit, c'est correct, vous avez traversé la porte, vous n'avez plus besoin de rien faire. C'est pas de même que ça marche. C'est correct, vous avez traversé la porte, maintenant, suivez-moi. Écoutez ma voix. Suivez-moi, puis là, on marche dans le chemin resserré. Là, on marche en contact avec le Seigneur. On marche selon sa volonté, on marche selon sa parole, un chemin tout tracé qu'il nous a écrit dans la parole. Puis ça, c'est le chemin qui mène à la vie. Puis il y en a beaucoup qui débarquent du chemin pour embarquer dans le chemin large. Puis ils pensent qu'une fois que j'ai traversé la porte, je suis correct, je suis sauf, je suis sauvé pour tout le temps.
Puis je suis capable de marcher dans le péché.
Puis je suis capable de retourner dans mon ancienne vie. Puis ça, là, ils se pensent sauvés pour tout le temps. C'est une séduction, c'est une erreur. Faut que tu persévères jusqu'à la fin pour être sauvé. Si tu abandonnes à moitié chemin, puis tu retournes dans ton ancienne vie, tu ne seras pas sauvé. Dieu va enlever ce qu'il t'a donné à la fin, puis on va être jeté dehors. C'est important qu'on persévère jusqu'à la fin. Je sais qu'il y en a qui pensent que le salut se perd pas, mais c'est anti-biblique. Le salut peut se perdre si les gens se rebellent puis ils se détournent de Jésus. L'important, c'est d'apprendre à l'écouter sa voix, puis à le suivre selon sa parole, puis on ne perdra rien. On va tout gagner. Persévérons dans cette voie-là.
Il n'y a personne qui va nous enlever de la main de Dieu. Il n'y a personne.
Okay? Non.
On est sauvés.
T'embarques, il te protège.
C'est ça. Mais on peut se débarquer, nous autres.
On peut débarquer. C'est ce qu'il faut éviter. Quand on parle du chemin resserré, là, il y a deux synonymes dans la Bible, deux choses qui veulent dire la même chose que de marcher dans le chemin resserré. Le premier, c'est de marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu ne marches pas selon ta chair. Parce qu'on a deux chemins. Si on est à l'écoute de notre corps et de notre pensée, là on marche dans nos idées personnelles, dans nos péchés, dans nos passions, dans nos désirs, dans nos buts. Mais il y a l'autre affaire qu'on a reçue, c'est qu'on a reçu son esprit. Puis la Bible nous demande de marcher par l'esprit. Mais quand tu marches en contact avec l'Esprit de Dieu, tu vas l'écouter. Tu vas écouter l'Esprit de Dieu, puis là, il va te dire, touche pas à ça, il va t'amener à marcher par là. Il y a des versets comme Romains 8, 14 qui nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Comment tu fais au juste pour marcher par l'Esprit?
Mais il faut apprendre à l'écouter.
Et comment tu dis, tu penses que tu veux décider de faire quelque chose?
Mais il va te le dire. Faut que tu y parles, puis tu y demandes. En réalité, tout ce qu'on fait, il faut apprendre à lui faire confiance, mais il faut apprendre à lui demander de nous aider. Puis après ça, si on est à l'écoute, il va nous montrer des signes. Il va nous montrer, tu vas le sentir en dedans de toi qui t'emmène par là, ou qui t'emmène par là. C'est comme, on va le voir aussi que l'esprit sert à quelque chose, mais là, je vais continuer cette idée-là. Un autre verset qui parle, il dit dans Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Notre vie est assurée par le Saint-Esprit, donc il faut apprendre à marcher par l'Esprit. Quand tu es à l'écoute du Saint-Esprit, tu es en train de marcher dans le chemin resserré. Puis si tu retournes dans tes péchés, tu marches dans le chemin large. L'autre synonyme que je vais vous parler, C'est dans Jacques 1, 22. Il nous dit dans la parole...
Lis.
Ouais. « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. » Galates 5, 16. C'est exactement ça. Si tu apprends à l'écouter, l'esprit, tu vas marcher selon l'esprit, tu ne marcheras plus selon tes convoitises de ta chair. Fait que, les synonymes, il y en a deux que j'ai dit. Le premier, c'est d'apprendre à marcher par l'esprit, à écouter la voix du Seigneur, qui est l'esprit, et qui nous conduit dans ses voies. Le deuxième synonyme, c'est Jacques 1, 22, qui nous dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole. Quand tu lis la Bible, puis tu veux la mettre en pratique, c'est là que tu marches dans le chemin resserré. Puis c'est là aussi que tu vas marcher par l'esprit. Le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on ait le goût de lire la Bible, le goût de l'étudier, le goût de la méditer, le goût de l'entendre, puis le goût de comprendre, parce qu'il veut qu'on nous donne le goût de la mettre en pratique.
Marcher par l'Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu.
C'est ça. C'est que ces deux synonymes-là, ça revient, quand tu écoutes l'Esprit, tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de marcher dans le chemin resserré qui mène à la vie.
C'est ça.
C'est pas plus dur que ça, c'est excessivement simple.
C'est ça, la Bible en pratique.
C'est ça. Mais il faut prendre garde, une fois qu'on l'a entendu, qu'on devienne endurci, puis qu'on s'en éloigne. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il y en a plein de monde qui ont abandonné. Ils ont commencé, ils ont marché, mais ils ont abandonné. Dans Hébreu, c'est ce que ça nous dit dans Hébreu 3, le verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Voyez-vous, il est important qu'on s'encourage les uns les autres à se dire, persévérons des voies du Seigneur, marchons, écoutons l'Esprit, marchons selon sa parole, avec une ferme assurance jusqu'à la fin. On est participant de Christ en autant qu'on persévère jusqu'à la fin. Il ne faut pas abandonner.
Pour écouter Christ, il faut quand même la lire et la prendre par cœur.
Mais ça l'aide beaucoup quand tu as
ça. Oui, là tu peux, parce que Dieu fait juste révéler qu'est-ce qu'il y a dans sa parole.
Oui.
Tout ce qui ne vient pas de la parole, c'est pas de Dieu.
Oui. Puis quand tu connais la Bible, là, un autre vient te donner une fausse doctrine, puis tu le sais. Comme j'ai dit, mais la semaine passée.
C'est une bonne mémoire pour obtenir tout ça.
Mais
ben non, c'est à force de lire, puis de lire, puis de lire.
Quand tu lis, l'esprit
va te faire rappeler.
Mais il faut la lire.
Quand tu lis, l'esprit après.
C'est comme un livre d'histoire. Mais si on prend un livre d'histoire, là, d'une histoire, un livre ordinaire pour enfants, on lit une page par jour. Mais au bout du 365e page, ça fait un an qu'on a commencé à lire. Ça se peut qu'on ait oublié le début, puis qu'on ait oublié tous les discours qui ont été dits.
Mais c'est pour ça qu'on recommence l'année après, puis la Bible, c'est qu'on relit à tous les années. On relit, puis on relit,
ouais.
On relit.
Puis si on est capable de la lire plus qu'une page, ça sera encore mieux.
On l'a
passé
à travers,
si
on
voit
3 ou 4 pages par jour.
Ouais. Fait que...
C'est année après année, puis là, on va à l'église, ça fait des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis on attend tout le temps la même affaire, mais il faut renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps.
On entend les mêmes affaires, moi, quand je sors de l'église, je me répète plus de rien.
Il y a un secret pour ça, pour régler ça.
Prenez des notes.
Oui. Faut que tu prennes des notes. T'amènes un livre et un crayon, t'écris les versets, puis t'écris les idées que tu catches sur le coup. Puis là, une fois que tu vas avoir fini ta journée,
c'est
là,
pendant que je vais t'écrire, il va avoir continué, puis j'en ai...
C'est pas grave. Au moins, t'en as retenu une. Tandis que là, si t'en écris aucune, t'en retiens rien. Donc, ceux qui prennent des notes, qui écrivent les versets, chez eux, ils relisent les versets. Ben, il y en a plusieurs.
Ah ben, il y a eu un temps, on écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On prenait beaucoup de notes. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il n'y a plus grand monde qui prend des notes.
Peut-être qu'il y a ça tout par cœur, là.
J'en prends encore.
Il y en a encore qui en prennent. Quand tu les prends...
J'en ai vu deux prendre des notes à la déguise.
Mais quand tu prends, t'écoutes, tu retiens juste à peu près 15%. Quand tu écris, en plus d'écouter, tu retiens 25%. Quand tu écoutes, t'écris, puis tu n'en reparles de ce que tu as écrit, tu vas en retenir peut-être 50%.
Et quand tu lis à tous les jours, puis tu fais des notes de qu'est-ce que tu as écrit, à un moment donné, avec le temps, même les versets, ben, tu peux prendre, mettons, un verset, tu apprends un verset par jour, par cœur.
Ça, dans l'histoire des Juifs, là, dans l'Ancien Testament...
Oui, mais tu l'écris dans ton prix d'air quand tu es au domaine, le verset. Parce qu'une fois que tu vas dans le prix d'air, tu lis, tu essaies de l'apprendre par cœur.
Mais si on fait un effort, on y arrive. C'est sûr. Même un enfant peut en retenir. Dans l'Ancien Testament, là, les Juifs, il y avait un problème. Dieu avait un problème avec le peuple juif. Puis ça, ça nous a été donné en exemple. Dans Jérémie 11, verset 6. L'Éternel me dit, publie ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Là, ça veut dire qu'il voulait qu'il distribue la parole de Dieu. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Parce que c'est ça, il n'y a rien de nouveau, là. Jésus nous parle dans le même langage. Écoutez les paroles puis mettez-les en pratique. Il dit, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Puis ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur ai ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Même dans l'Ancien Testament, c'était la même affaire. Dieu parlait au peuple juif. Là, il les envoyait par écrit, s'il faut, à passer des pamphlets partout, publier ma parole. Mais il dit, je l'ai publié à tous les matins, puis le monde n'a pas écouté. Ils n'ont pas écouté ma voix, que Dieu dit, puis ils ne l'ont pas mis en pratique. Jésus, quand il dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Une véritable brebis du Seigneur. Une des caractéristiques qu'on découvre, là, c'est qu'il écoute puis il veut pratiquer. Une véritable brebis va demeurer dans la parole de Dieu. Et ceux qui jouent à la brebis, ils font semblant puis ils veulent pas pratiquer. Ils écoutent, peut-être, mais quand c'est le temps de faire, ils sont pas là.
Oui, parce qu'ils ont oublié.
Il y en a peut-être qui ont oublié, mais il y en a peut-être qui sont rebelles aussi, qui veulent pas. Là, maintenant, dans la nouvelle alliance qu'on a, écoutez bien celle-là. Dans la nouvelle alliance, dans l'alliance qu'on vit présentement avec Jésus, ça se pourrait-tu qu'une église soit ouverte, pleine de monde dans l'église, puis que les cultes fonctionnent, là, que l'Église est pactée de monde de semaine en semaine, l'Église fonctionne, ça se peut-tu qu'il y ait une Église comme ça, remplie, puis qui fonctionne, puis que Jésus même pas là?
Ah ben oui! T'as Jésus pas là? Ben certain!
Pourtant, c'est une Église du Seigneur, c'était des brebis du Seigneur, puis qu'il y aurait une Église remplie de monde, puis Jésus, il est même plus là dans l'Église.
C'est du entertainment.
C'est grave, là. On parle de brebis qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, viens. Ils ont dit oui, ils ont accepté. Ils sont devenus des disciples de Jésus. Puis dans la suite de leur vie, ils vont à l'Église. puis ils veulent pas rencontrer Jésus.
C'est juste entertainment, puis c'est du faire de chef, mais pareil.
Ça, là, cet exemple-là que je vous dis là, c'est écrit dans la Bible, puis Dieu le fait en reproche à une église dans l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Est-ce que quelqu'un qui a une Bible? On va vous dire au complet parce que c'est trop grave.
Oui, puis tu vois là, la musique, elle peut être bien, 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 tout peut être bien, bien, bien beau, mais il y a, tu retournes chez vous.
Jésus, là.
T'as pas,
Jésus, il dit.
Je sais pas c'est quoi,
entertainment.
C'est de l'entretien, des jeux, c'est des activités.
C'est ça, moi j'appelle ça un club social.
Moi, c'est ça. C'est...
Écoutez bien ce que Jésus dit dans Apocalypse 3:20. Voici, là il parle à une église, je me tiens à la porte puis je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus dit qu'il est à la porte de cette église-là puis il frappe. Mais il est en train d'avertir à du monde en dedans, s'il y a du monde qui sont là, qui entendent ma voix, et qui ouvrent la porte. Hey, Seigneur, t'es dehors? Ben, Jésus, le monde sont dans l'église, là. Le monde sont dans l'église. Jésus est à la porte, dehors. Puis il frappe. Il veut rentrer dans son église, Jésus. Il dit, je me tiens à la porte, puis je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, you, y a-tu quelqu'un dans cette église-là qui m'entend? C'est à son église, ça. Il est même plus invité dans son église. Jésus, il reste dehors à la porte, puis il frappe. Il aimerait ça qu'il y en ait un qui entende sa voix, puis qu'il le laisse rentrer pour que Jésus rentre en lui, puis souper avec Jésus. Que Jésus va rentrer dans sa maison à cette personne-là. Jésus va aller manger à sa table, puis lui, après ça, va manger à la table du Seigneur. C'est grave ce que je suis en train de dire là. Des églises, des derniers temps, des églises qui fonctionnent aujourd'hui, ça existait dans le temps de Paul, dans le temps de l'Apocalypse, là, c'était écrit dans les premiers apôtres, là. C'est Jean qui l'a écrit. Ça existait des églises comme ça, puis il y en a encore aujourd'hui. Vous voulez le passage au complet dans Apocalypse 3, puis vous me dites, vous essayerez, quand je vais vous le lire, de trouver la cause. Pourquoi que cette église-là fonctionnait sans Jésus? Le verset 15, ça commence. 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid? Une minute, là. Et tu fais une erreur. Non, oui, c'est ça, c'est correct. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans ce verset-là, on voit que cette église-là était dans une condition que Jésus n'était même plus là.
Il n'était pas dans l'église, il était à la porte.
Il était à la porte. Quelle en est la cause? Pourquoi que ça a fini par aboutir comme ça? Que cette église-là, Jésus n'était plus le bienvenu.
Ben, il était pas riche, là, quelque chose.
Oui.
Je ne me souviens pas comment c'est dit, là.
Ah, mais tu t'as un bout de la mémoire. Ces gens-là se disent, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien.
Il n'y avait pas besoin de Jésus non plus.
Oui, il n'y a plus besoin de rien. Dans quoi qu'est-ce que ces personnages-là se confiaient? Dans leur richesse. Ils se pensaient bien bons, bien fins, puis ils se pensaient autosuffisants, puis ils n'avaient plus besoin du Seigneur. Ils n'avaient plus besoin du Seigneur. C'était une église qui fonctionnait sans le Seigneur. Moi, j'ai déjà entendu ça des églises qui ne voulaient pas que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église. Ils veulent pas qu'il y ait du monde qui parle en langue. Ils veulent pas qu'il y ait des prophéties. Ils veulent pas qu'il y ait des paroles de connaissance. Ils veulent pas que le Saint-Esprit parle. Puis ils ont tout ce qu'il faut. Oh, on a des bons chanteurs dans l'église. C'est des super bénissants. On a aussi un bon prédicateur. Lui, il prêche quelque chose de rare. Mais ils sont rendus tièdes face au Seigneur. Ouais, on parle de Dieu, nous autres, dans notre église. Mais ils sont pas en amour
avec
Dieu.
Non, ça bouge pas, hein?
Ça bouge pas pour Dieu. Ça cherche pas à avoir plus de Dieu. Ils ont déjà plein de... sont imbus de eux-mêmes. Ce qu'ils ont... ce qu'ils ont, c'est plein de eux-mêmes. Puis ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Puis ils sont contents de où ils sont rendus. Puis personnellement, ils ont du moins... Non, on a tout ce qu'il faut. Puis Dieu le dit... Jésus lui dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Ils se pensent riches, puis ils se pensent qu'ils n'ont pas besoin de rien, puis ils ne voient pas vraiment leur condition devant Dieu. Jésus la voit.
Il est allé face au monde, mais pas face au monde.
Ils grandissent tous, ce monde-là?
Non.
Non, hein?
Ils tournent en rond.
Ils
tournent en rond comme dans le désert, puis le Seigneur les appelle, il frappe à la porte, puis il frappe, puis il dit, quelqu'un entend ma voix. Qu'est-ce qu'il dit? J'entrerai chez lui. Il y a même, on dirait que le Seigneur n'est même pas intéressé de rentrer dans cette église-là. Il dit, s'il y en a un dans la gang qui est intéressé, là... Mais écoutez ma voix, puis je vais aller chez vous.
Tu vas à l'église.
Puis là, je vais souper chez vous. Je parle pas contre toutes les églises, là. Je parle pas contre aucune église. Non. J'ai pas nommé d'église. Mais ce qu'il faut vérifier, quel est notre état de cœur devant Dieu.
C'est comme si tu t'en vas chercher ton lait, à toi tu manges, puis ça s'arrête là. Du lait. Mais tu grandis pas.
Mais est-ce que Jésus est là, dans cette église-là? On parle de Jésus, ça je dis qu'on parle de Jésus, peut-être, mais est-ce que la présence de l'Esprit de Dieu est là, puis qu'elle a pris le contrôle de la réunion, puis que tout le monde sont soumis à l'Esprit de Dieu dans l'attente de se laisser guider par Dieu pour entrer dans la louange, pour adorer Dieu, puis écouter le message que Dieu nous parle, puis là de laisser Dieu nous changer, de nous transformer, puis de notre vie elle change. Parce qu'on est en contact avec. Mais si Jésus est à la porte, on est-tu en train d'écouter qu'il nous appelle, il cogne, puis il veut venir chez nous? Il faut écouter notre cœur. Est-ce qu'on est en train d'écouter la voix de Dieu? C'est là la question. Est-ce que j'apprends à l'écouter, que je m'arrête à tous les jours, puis dire au Seigneur, pardonne-moi pour telle et telle affaire, puis Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Fais mourir les actions de mon corps. Équipe-moi de tout ce que tu as me donné. Révèle-moi ta parole. Donne-moi ton armure. Fais-moi un soldat. Puis guide-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Guide-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. C'est là qu'il faut aller, frères et sœurs. Je vais faire une prière, on va prier dans ce sens-là, afin que le Seigneur nous guide. qui nous redonne. Il dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. Moi, je châtie tous ceux que j'aime. » C'est ça qu'il dit dans ce verset-là. Mais il veut qu'on ait du zèle, puis qu'on se repente, puis qu'on le confesse à Dieu, qu'on n'écoute pas toujours sa voix. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, on veut l'entendre. À partir de chaque réunion, on va écouter sa voix. À chaque fois qu'on va lire la Bible, on va écouter sa voix. Puis à chaque moment de notre vie, quand on a des décisions à prendre, on va demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour prendre les décisions qu'il veut nous diriger. Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on s'approche. Premièrement, pour te demander pardon pour notre endurcissement. Pardon, Seigneur, de ne pas être plus à l'écoute de ta voix. Pardon, Seigneur, de négliger puis de marcher d'une manière comme si je t'étais capable tout seul, j'ai pas besoin de toi. Seigneur, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon état, je le reconnais que je suis un pécheur, puis je te demande pardon, puis je te demande de me purifier par le sang de Jésus. Je te demande de remplir mon cœur de ta présence, remplis mes pensées de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Fais mourir les actions de mon corps. Viens me donner tes dons spirituels. Viens me donner ton armure. Viens m'équiper, Seigneur. Viens me révéler ta parole. Conduis-moi dans ton chemin, Seigneur. Apprends-moi à être obéissant à ta parole. Apprends-moi à être à l'écoute de ta voix et de marcher en communion avec toi. Je te remets ma vie. Je te remets ma famille. Je te remets l'Église où je vais. Je remets mes frères et sœurs. Je remets toute ma famille, mes ceux qui ne te connaissent pas, afin que tous puissent apprendre à te connaître et marcher en communion avec toi. On remet nos ventres tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.